48FM. 48FM. 48FM, Amende. C'est sur le 94.1.
Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service.
J'appuie sur envoi. Voilà, pour s'arrêter déjeuner, nous avons le choix entre une auberge, un restaurant 3 étoiles et un relais gastronomique.
Ce n'est pas la peine que je fasse des sandwichs.
Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS.
48FM vous fait vivre les 4e assises nationales de la médiation numérique en direct de l'espace événement Georges Frêche.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute de cette deuxième émission en direct de l'espace événement Georges Frêche dans le cadre des 4e assises nationales de la médiation numérique. Alors on va ce soir réfléchir autour du thème, on va même aller plus loin de ces 4e assises, soit la médiation numérique au service du développement des territoires, avec les intervenants notamment de la plénière qui s'est tenue cet après-midi, Lisa Lombardi de l'agence numérique Wallonne, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons avec vous Karine Jean qui vient du Québec et qui est en stage chez vous, bonjour.
Oui, bonjour.
Et également avec nous Pierre Desfarges de l'agence Rétis. Bonjour.
Pascal Desfarges, oui, bonjour.
Pascal, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Pierre.
Tiens. C'était bien écrit Pascal, pourtant.
C'était bien écrit Pascal, oui. Guillaume qui est là, qui nous rejoint pour cette deuxième émission.
Bonjour à tous.
Eh bien tiens, Guillaume, je vais te laisser la parole pour qu'on évite les erreurs.
Non, je ne suis pas sûr qu'on va éviter les erreurs. Alors, on a essayé d'être des participants très attentifs de la conférence qui avait lieu cet après-midi. Donc la question, elle va d'abord s'adresser à Pascal Desfarges. Désolé, c'est pas très galant. Hein. vous nous avez parlé cet après-midi finalement d'un constat de territoire en mutation, du concept même de territoire qui évolue, confronté ou induit par les usages du numérique, par la médiation numérique, avec une organisation des réseaux plus collaborative. Alors, est-ce que j'ai bien un peu compris l'idée? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots, essayer de dire la substantifique moelle, comme on dit, pour nos auditeurs?
Je peux essayer, oui. Comment commencer? Déjà que les territoires, très concrètement, sont en train de muter. Il y a une profonde mutation. Et cette profonde mutation, elle est liée à la réorganisation territoriale en France, à commencer par, il y a plusieurs entrées. Il y a d'abord la métropolisation. Donc les grandes villes deviennent métropoles. Et à partir du moment où elles deviennent métropoles, eh bien leur pouvoir, comme une tache d'huile, c'est comme si je versais un liquide un peu sirupeux sur une carte, leur pouvoir s'étale sur les zones rurales, mais sur les franges des zones rurales. Donc ça s'appelle la métropolisation, premier axe. Deuxième axe, la loi NOTRe. La loi NOTRe oblige les collectivités territoriales, et notamment dans les zones rurales, à fusionner. Donc les intercommunalités fusionnent les unes avec les autres. Ce sont des équilibres de pouvoir qui s'écroulent. Et même des concurrences même entre territoires. Donc ça, c'est la deuxième chose. L'émergence des grandes régions fait aussi que, tout d'un coup, par exemple, la région Limousin se trouve engouffrée dans la région Aquitaine. Et pourtant, ce sont des cultures différentes, des fonctionnements différents, etc. Donc il y a toute cette logique qui est en train de transformer profondément la façon dont on aborde un territoire. Puis de l'autre côté, il y a le numérique. Mais le numérique, non pas à cause des outils numériques, c'est parce que le réseau Internet, dès son origine, parce qu'on devait ne pas le détruire, il devait être indestructible en pleine guerre froide, les pionniers de l'Internet ont essayé d'imaginer un réseau qui n'aurait pas de centre, parce qu'un centre, c'est fragile. Plusieurs centres aussi, d'ailleurs. Plusieurs nœuds. Si on tue les centres, s'il y a des missiles nucléaires, on explose le réseau. Ils ont inventé une chose tout à fait incroyable, un réseau qui n'a pas de centre, qu'on appelle aujourd'hui, quotidiennement, un réseau distribué, où tout le monde peut se connecter avec tout le monde, et ça ressemble à un filet. Rétis en latin veut dire filet. Ça ressemble à un filet, ça ressemble à une grille, ça ressemble aussi à un cerveau. Le cerveau est un réseau distribué de neurones et de synapses qui ont tous la même valeur, tous le même pouvoir, pas forcément la même fonction. Et on sait que dans un cerveau, par exemple, quand on a une faiblesse neuronale, il y a une dimension collaborative entre les neurones qui reprennent... Donc, globalement, aujourd'hui, c'est une extrême mutation. Et les élus, les acteurs locaux, les commerçants, les entreprises n'ont pas nécessairement compris qu'on changeait de vision du territoire. Que le territoire, aujourd'hui, c'est des gens qui s'interconnectent où il n'y a pas de centralité. Et dans ce cadre-là, les tiers-lieux, mais pas que les tiers-lieux d'ailleurs, parce que on entendra sur la Wallonie, il y a le même genre de démarche, c'est d'interconnecter les compétences entre elles, d'interconnecter les humains entre eux, d'interconnecter les initiatives, les projets. Si on parlait de Radio 48 FM, je fais un peu de pub, eh bien je dirais qu'elle devrait s'associer à l'échelle nationale dans un réseau distribué, non centralisé, non gouverné, en gouvernance collaborative, avec Radio Guéret, Radio Pays de Guéret, qui fait la même chose que vous, mais sur la Creuse. Et que là, on aurait un média extrêmement puissant, car un média collaboratif.
C'est ce qu'on fait à l'échelle de notre région, c'est vrai.
Voilà, donc ça se traduit même pour vous, oui, en tant que média. Ça change même l'idée du média.
Oui. Justement, c'est... Donc là, vous l'évoquiez au travers des tirelures. On va peut-être poser la question appliquée. Donc c'est cette transformation finalement numérique du territoire. Lisa Lombardi, c'est ce que vous avez présenté, c'est ça. C'est une stratégie de développement territorial, de transformation du territoire au travers du numérique. Comment c'est venu à ce territoire de s'engager dans ce processus?
Comment c'est venu? Je pense que c'était nécessaire à un moment aussi de se structurer, de structurer la réflexion. À un moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui foisonnent de la part des acteurs du terrain et puis et qui souvent un petit peu restent lettre morte ou on ne sait pas très bien comment les mettre en œuvre. Je pense qu'à un moment, il y a une volonté aussi de pouvoir avoir, justement, j'évoquais l'idée de la lettre de course des navires, d'avoir vraiment finalement un plan qui est précis et qui est détaillé et on sait où on va en fait. On sait ce qu'on doit mettre en œuvre et on a des mesures concrètes qui viennent du terrain et qui sont vraiment des choses pour lesquelles on a dégagé aussi des budgets, ce qui est important. Évidemment, on ne pourrait pas juste dire, voilà, allez-y, faites, mais sans aucun moyen, sans aucun support. Et je pense que ça, c'est important au sens où nous, on se réfère au jour le jour à cette stratégie. Enfin voilà, c'est vraiment du concret. On suit les mesures qui sont détaillées, on a des plans d'avancement par rapport à cette stratégie et ça nous permet aussi de mesurer non seulement les actions qui sont réalisées, mais déjà de voir les premiers retours qu'on peut mesurer de ces actions.
Voilà, justement, vous avez mis en place un processus innovant et participatif de fin mars à juillet 2015 pour des propositions, 240 au final, des propositions qui ensuite ont été restructurées par le Conseil du numérique pour des mesures concrètes en janvier 2016. Vous pouvez nous donner un exemple de quelques mesures concrètes qui s'appliquent en Wallonie maintenant?
Il y a quelques mesures concrètes, oui, notamment donc, la création de 100 nouveaux EPN en Wallonie. Donc,
EPN, on va tout de suite traduire parce que...
Espace public voilà. Numérique, voilà.
C'est important
et
pour...
J'ai fait une liaison qu'il ne fallait pas faire, donc 100 espaces publics numériques. donc il y en a déjà 150 actuellement, donc 100 nouveaux espaces supplémentaires. Et ça, c'est une mesure concrète. La création d'espaces de coworking en milieu rural, autre mesure concrète. Des séances de sensibilisation, formation et accompagnement des commerçants locaux à la transformation numérique via un programme qui s'appelle Commerce Connecté. Des opérations liées à Wallcode, donc avec l'organisation d'ateliers de coding à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Un programme de mission à l'exportation à l'étranger avec un focus sur le numérique. Et également l'équipement Wi-Fi des écoles. Enfin, voilà, ça, ce sont des mesures concrètes qui sont déjà en train d'être mises en œuvre, avec également un fonds d'investissement dans les startups du numérique.
Alors, vous avez parlé même d'un concept de smart city qui se développe avec des implications sur finalement de nombreux domaines, la santé, l'énergie, les mobilités, enfin vraiment tout le numérique qui va un peu partout.
Oui, l'idée, c'est qu'une smart city, comme je le disais, c'est pas juste une ville qui fournit du Wi-Fi gratuit à ses visiteurs ou à ses habitants, mais c'est une ville qui prend en considération l'impact du numérique sur l'habitat, sur la mobilité, sur l'énergie, et qui utilise finalement toutes les ressources du numérique pour pouvoir être encore mieux gérée et pouvoir fournir de meilleurs services aux habitants. C'est vraiment ça l'idée de la smart city, et de montrer que finalement, ça impacte toute une série de couches et de services qui sont fournis dans les villes, en fait.
Alors ce sont 500 millions d'euros sur 4 ans pour la Wallonie, pour toutes ces mesures concrètes. Et le fonds pour les startups, il me semble, ça s'appelle Wing, fonds oui. D'investissement pour startups, 50 millions d'euros.
Oui, tout à fait. Aussi sur 4 ans, donc voilà.
C'est des moyens importants qui sont mis en place. Vraiment, c'est un choix de miser, c'est le choix de faire de cette politique le cœur du développement du territoire de la Wallonie, où finalement c'est un peu la cerise sur le gâteau qui vient par-dessus, ou c'est vraiment quelque chose de central dans la politique de développement du territoire?
Oui, oui, c'est vraiment quelque chose de central. Donc c'est justement pas l'optique d'être une cerise sur le gâteau, mais d'être central au sens où c'est pas une initiative uniquement du ministre du numérique. Donc c'est une initiative qui est gouvernementale. Donc il y a des fonds parmi ces 500 millions d'euros qui arrivent de différents ministères. Par exemple, le développement d'espaces de coworking en milieu rural est une mesure qui sera liée au ministère de la Ruralité. Donc voilà, c'est l'implication finalement de ministères différents au niveau gouvernemental qui font que réellement on a quelque chose qui est porté par la région et pas juste par le ministre qui voudrait voilà, évidemment le ministre du numérique soutient la stratégie numérique, mais je pense que le plus fort encore c'est que ce soit partagé par l'ensemble du gouvernement wallon aussi.
C'est récent hein, cette présentation de ce plan. Comment on aborde un chantier avec autant d'actions? C'est chacun qui prend sa responsabilité de construire son action avec un objectif commun, c'est ça?
Et donc il y a à chaque fois, je dirais, le Conseil du numérique qui reste le garant en fait de la supervision de la stratégie. Comme je le disais, il est composé de 6 membres, dont un président et puis un membre qui supervise chaque axe. Et parmi ces axes, donc l'Agence du numérique est chargée soit de mettre en œuvre elle-même une série de mesures, soit de charger différents acteurs via une logique de contrat de cette mise en œuvre. C'est comme ça que nous fonctionnons et donc nous avons des comptes rendus réguliers de l'avancée de la mise en œuvre des mesures.
Comment ça pourrait se traduire en France, Pascal Desfarges? C'est quoi? C'est le grand plan national du numérique?
Alors ça, il faudrait poser la question précise à l'Agence nationale du numérique.
Oui, c'est vrai.
Mais
j'imagine que vous êtes bien au courant.
Oui et oui et non. Oui et non.
Non.
Moi, vous savez, moi je suis en permanence sur les territoires. Voilà. J'accompagne les structures, j'accompagne les collectivités.
Donc vous pouvez voir les mesures concrètes qui se font,
oui,
finalement?
Oui et non.
Aujourd'hui, en France, on n'a pas ce logique de cette même ampleur que la...
Alors attention, je crois que c'est incomparable. Déjà, voilà. La taille du territoire, l'échelle. Donc c'est incomparable. Mettre en place ce que Lisa met en place, elle, en Wallonie, le mettre en place à l'échelle de un pays.
Oui, même à la taille d'une région.
Par contre,
ça
peut inspirer certaines régions.
Oui, c'est ça.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans le dispositif, c'est d'abord un dispositif transversal. Et moi, j'adore. Et d'ailleurs, elle a dit, hein, c'est tel ministère qui met des sous. Donc déjà, il y a une transversalité. Donc open government, quoi. Il y a une transversalité entre les ministères sur un même objectif. Puis en plus, c'est transsectoriel. C'est-à-dire, elle nous parle autant du social, du culturel, de l'économique. Elle virevolte, et d'ailleurs il y en a pour tout le monde entre guillemets, et du coup ça, il y a une vraie voilà, c'est du solide quoi, c'est une stratégie qui est très solide. Après il y a tous les principes de vérification, de critères de voilà, d'évaluation qui sont très complexes, il faut voir après, mais sur le papier oui, ça donne envie hein.
On est en retard parce que la taille n'explique pas tout, je comprends bien.
On fait autrement. L'Agence nationale numérique a des actions très concrètes, très efficaces, et je pense qu'ils peuvent être inspirantes pour la Wallonie. Vous voyez, je pense que, par contre, en Europe, si on arrivait à mutualiser les bonnes pratiques de ce qui se passe en Danemark, en Finlande, au nord de l'Angleterre, au sud de Lisbonne, voilà, parce que si on se balade un peu, en Italie. Vous voyez, on ne s'intéresse pas à ces pays-là. Alors la Belgique est francophone, donc forcément... mais qu'est-ce qui se passe en Italie? En Italie, on a inventé la carte Arduino. C'est en Italie, ce n'est pas aux États-Unis. Le do-it-yourself, c'est du nord de l'Europe. Ça ne vient pas du tout des États-Unis, parce qu'en plus, on a une vision très américaine. Je vais vous citer des marques. Lego, Capla, Playmobil, Linux, Minecraft... Donc je vous les reprends. Hein. IKEA. IKEA, c'est suédois. Playmobil, allemand. Lego, danois. Linux, finlandais. Linus Torvald. Et Minecraft, d'origine norvégienne. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Quel est le fil conducteur? Et là, on va revenir à la médiation. Le fil conducteur, c'est « do it yourself ». Fais-le toi-même, pour des raisons de l'histoire du protestantisme, d'éloignement géographique dans ces pays où il y a des grands lacs, etc. Est née une philosophie de « sois autonome ». Fais-le toi-même, construis tes maps toi-même, fais tes petits Playmobil toi-même, fais tes petites constructions Capla toi-même. Qu'est-ce que c'est Linux? Linux n'est pas un système d'exploitation, c'est une boîte de Lego code, de morceaux de code, qui permet de fabriquer des systèmes. C'est une pensée géniale. C'est la même idée. Donc là, le nord de l'Europe est très inspirant. Comment on intègre cette culture du do it yourself with others en Wallonie, et je pense que ce qui manque, C'est parce que les commissions européennes sont vraiment sur des plans, on dirait une planification soviétique. Ce qui manque, c'est vraiment que 15 LISA se rencontrent entre elles et qu'on leur donne les moyens d'échanger, LISA et sa camarade québécoise.
On va essayer de la cloner
aussi,
ce soir.
Au Québec aussi, se rencontrent et échangent concrètement les bonnes pratiques, quoi, que ce soit concret. Quoi.
Alors justement, au Québec, quelle vision de cette transformation numérique des territoires ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes impliqué aussi ?
En fait, moi, je ne suis pas impliquée directement avec la stratégie du numérique au Québec. Par contre, on n'est pas aussi avancé que la Wallonie, ça, c'est sûr et certain. Nous, on est en train de travailler aussi sur un plan stratégique pour le numérique, un peu comme la France, vous faites. Puis c'est un plan qui devrait être annoncé au printemps 2017. Donc, on demande vraiment la collaboration des citoyens, un peu comme vous avez fait via une plateforme collaborative. On demande non seulement aux citoyens, mais aux entreprises, aux organisations, aux différents acteurs, finalement, du milieu. Donc, ça s'en vient aussi au Québec. Puis, comme vous disiez, finalement, le Québec, c'est vraiment un grand territoire aussi. Donc, c'est assez difficile à mettre en place. Les réalités sont vraiment différentes selon les régions, selon Montréal, selon ma région d'où vient le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment pas les mêmes enjeux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à mettre en place. Puis...
Quand même, le Québec est très intéressant sur les dispositifs de pédagogie numérique, où ils sont très en avance et depuis très longtemps. Les Québécois, ils ont, pour connaître un petit peu, les Québécois, ils ont une, et les Canadiens globalement, mais plutôt les Québécois, ils ont une particularité. Ils croisent la culture californienne technologique, high-tech, voilà, ils l'ont au même titre que les Américains, et une culture européenne du texte, du sens, et ils hybrident les deux, et ils l'hybrident très très bien. Et nous, on n'a pas cette chance d'avoir à la fois une culture technologique high-tech et en même temps du sens. Et du coup, moi, je connais bien le monde des médiathèques, des bibliothèques, j'accompagne beaucoup. Mm-hmm. On était très en avance. Ce sont des modèles pour les médiathèques françaises, les outils pédagogiques, les outils. Mm-hmm. Les outils, les méthodes sont vraiment précurseurs et avant-gardistes, plus peut-être même que les Américains ou les Californiens. Et ça, c'est intéressant. Alors après, que vous n'ayez pas de plan stratégique encore...
Non, ça vient, ça vient.
Pardon.
Il n'y a pas de problème.
Alors peut-être aussi on va évoquer cette notion de tiers-lieu. Alors vous nous avez dit que ce concept ne fonctionnait pas
le terme n'était pas utilisé en
Belgique. Alors on en avait parlé un petit peu sur 48 FM l'an dernier à l'occasion de la semaine des lieux de travail partagés que nous avions co-animé à nouveau. Mais alors peut-être Pascal Desfarges, vous avez essayé tout à l'heure de donner une définition,
une identité.
oui voilà de ces tiers-lieux. Oui, voilà, il n'y a pas de définition, mais justement, bah, finalement, qu'est-ce qui...
Alors, Lisa a raison, ça n'existe pas en Wallonie, ça n'existe pas aux États-Unis. Hein. Enfin, ça n'existe pas. On n'appelle pas ça tiers-lieu. Sauf que le sociologue américain Ray Oldenburg a amené l'idée de troisième lieu. Et son livre s'appelle The Third Place.
Alors, troisième lieu, ça veut... Si j'ai
alors,
bien
troisième
retenu,
lieu, très concrètement, voilà. Pour nos auditeurs, voilà. Y a trois lieux dans la vie. Il y a la maison, la vie privée, il y a le travail, le lieu de travail... Et puis, il y a un hypothétique lieu de convivialité et de rencontre. Alors, ce lieu hypothétique de convivialité et de rencontre, il est très différent en fonction des cultures et des pays. Hein. Donc, en France, ça sera le café français.
Évidemment.
Mais à Moscou, ça sera le petit parc où on joue aux échecs. Vous voyez c'est... Et puis, en Afrique noire, ça sera... voilà. Donc, il y a une traduction. Ce qu'on constate, et ce que constate Ray Oldenburg, c'est la disparition progressive de lieux de convivialité et de proximité en Occident. Globalement. Et il dit comment on trouve des solutions. Alors, le troisième lieu, parce que c'est l'idée du troisième lieu, c'est le lien social, c'est la bienveillance, c'est la rencontre entre les gens, c'est l'idée de partager des ambiances communes. Les Américains, ils disent pas tiers-lieu, ils appellent ça, pour les puristes, « commons shared space », des espaces partagés communs, pour partager du commun, du bien commun. Donc, c'est pratiquement l'idée de tiers-lieu, évidemment. Mais c'est différent. Pourquoi j'insiste sur cette idée d'une identité des tiers-lieux à construire ? Parce que en France, on appelle tout tiers-lieu maintenant. N'importe quoi est un tiers-lieu. C'est un espace de coworking privé avec des prestations privées, voilà, en réseau. Ils en ont 10 en France, avec des actionnaires derrière. C'est un tiers-lieu. Faux. Je m'insurge contre ça. Le coworking, par contre, est fondamental. Ce que déploie Lisa sur la Wallonie, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça porte la mutation du travail. Ça porte le concept de travail qui change. Travail collaboratif, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, un tiers-lieu, c'est un lieu qui crée du bien vivre ensemble, du lien humain, de l'intergénérationnel. C'est, moi, j'appelle ça, dans le monde des bibliothèques, je les appelle les bibliothèques care. Il y a un mouvement féministe américain qui s'appelle le mouvement care, qui date des années 80, qui accompagnait les femmes battues. Qui est un mouvement tout à fait extraordinaire, parce que ce n'est pas un mouvement les méchants mâles contre les gentilles filles, et qui s'est développé. Et l'idée, c'est de prendre soin des gens sur les territoires ou en proximité.
C'est d'abord une communauté, vous expliquez.
C'est une communauté de gens qui se réunissent, qui partagent les valeurs du bien commun et de prendre soin les uns des autres. Take care.
D'accord. Lisa, vous voulez réagir ?
Mais oui, je pense qu'on est peut-être, nous, dans notre définition du coworking en Wallonie, on est peut-être un peu à la croisée des chemins entre ce qu'il y a en France, les tiers-lieux basés sur les communautés, et puis peut-être le concept de télécentre, qui est quelque chose qu'on... Voilà, pour le dire franchement, qu'on n'encourage pas spécialement en tant que tel chez nous, parce qu'on estime que ce n'est pas vraiment ça que les gens recherchent, en fait. Je ne pense pas que les gens cherchent un lieu de travail. C'est un plus, mais je pense que clairement, chez nous, en tout cas, ce qui ressort clairement de ce que les coworkers nous disent, ils ne cherchent pas un lieu de travail, en fait. Ils peuvent travailler chez eux s'ils veulent, ou ils peuvent travailler chez leur employeur. Ils cherchent une communauté, justement.
Exact. Ils cherchent à être ensemble.
Voilà. Et donc, clairement, pour nous, cette notion de communauté, elle est intégrée d'office dans les espaces de coworking, parce qu'en fait, au niveau local, il faut bien se rendre compte que les gens ne connaissent pas hein, les personnes qui habitent à deux rues de chez eux. Ça se trouve, il y a un autre entrepreneur, parce que c'est vrai que bon, globalement, ça s'adresse surtout à des entrepreneurs. Il y a peut-être un entrepreneur qui fait un truc super à deux rues de chez eux, ils ne le savent même pas. Et puis de même, pour les acteurs locaux qui sont chargés de soutenir les entrepreneurs, eux-mêmes n'ont pas toujours connaissance de ce qui se fait dans leur région. Et donc l'espace de coworking, il y a vraiment cette idée-là, non seulement de créer du lien entre les entrepreneurs entre eux, mais aussi avec les services publics et avec les organismes de soutien au développement économique. Enfin, voilà, moi, évidemment, c'est vrai que je coordonne un réseau d'espaces de coworking, donc ça viendrait bien mal que je n'irais pas dans les espaces, mais sincèrement, enfin, je découvre sans arrêt de nouveaux entrepreneurs qui font des choses géniales et personne n'en sait absolument rien. Et donc l'idée aussi, c'est de leur donner de la visibilité, leur fournir des contacts utiles. Et ça, vraiment, je pense qu'on a beau avoir tous des réseaux sociaux qui nous ouvrent des portes sur le monde, ça reste quand même vraiment nécessaire aussi au niveau local de le faire.
Oui, il y avait une dame qui m'avait dit passer une journée dans un tiers-lieu. Et elle m'avait donné la meilleure définition possible d'un tiers-lieu. Elle m'avait dit, c'est une dame qui était assez âgée, hein, et elle avait trouvé ça formidable, tout ça. Et elle me dit, mais en fait, c'est comme Facebook, mais en vrai. C'est, je peux, moi, gloser des heures, vous faire de la théorie de la médiation des heures, faire de la philosophie. Pour moi, c'était la définition géniale. Alors moi, j'en ai une autre. C'est un lieu où on peut tomber amoureux. Un tiers-lieu. Mais attention, pour tomber amoureux, il faut des ambiances communes, il faut que les choses ne soient pas figées. Voilà, c'est d'autres définitions, hein. Peut-être plus humaines.
Finalement, ce que vous avez exprimé, je crois, dans la conférence cet après-midi, c'était aussi le fait que finalement, chacun avait quelque chose à apporter au groupe et que finalement, l'animateur du lieu, alors qu'on peut appeler de différentes façons, il est finalement là pour faire un peu, si on est dans les questions de l'amour, pour faire un peu l'agence matrimoniale. Quoi.
Oui,
c'est
non,
faire se rencontrer les bons
profils. On appelle ça des concierges numériques, le dictateur éclairé, le facilitateur, oui. Il y a plein de noms.
Fertiliseur,
le Fab Lab Manager.
Ouais.
Mais ces gens ne dirigent pas. Ils ne sont pas là pour diriger. Ils sont là pour connecter, pour repérer les compétences des gens et de se dire, mais lui peut parler avec lui, lui pourrait avoir échangé une richesse, ce qui est extraordinaire en termes de rendu humain. Parce que, un, vous connectez des gens, donc vous provoquez du lien social et de la richesse, et deux, vous valorisez les gens. J'ai quelqu'un à qui on a dit, tais-toi, et puis on vient lui dire, non, tais-toi, t'as des compétences, viens parler à l'autre. Il est valorisé socialement. Donc il y a aussi une dimension, même dans un espace de coworking entre entrepreneurs. Puis entre entrepreneurs, si on a des entrepreneurs, ils vont se connecter, ils vont se parler. Puis c'est bien de travailler ensemble, mais ils vont aussi construire des valeurs. Enfin, pas simplement des valeurs, mais de la richesse économique. Parce que deux entrepreneurs qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, dans des secteurs complètement différents, vont se rencontrer. Il y a quelques semaines, j'étais près de Clermont dans une journée qu'on avait organisée autour des tiers-lieux dans une commune. Et il y avait dans le même espace deux personnes qui parlaient. Il y avait un chef d'entreprise de Issoire, la ville d'Issoire, une ville du Puy-de-Dôme. Oui, il avait 52 salariés, mais il faisait 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il était dans l'industrie, dans les logiciels industriels. Et il avait des antennes en Italie, aux États-Unis, en Californie. Et il était en train de parler avec un berger connecté, voyez ? Un berger qui emmène des citoyens pour leur apprendre le pèlerinage, enfin la transhumance et tout, qui fait découvrir les produits locaux. Ces deux personnes échangeaient au sujet de comment on recrute quelqu'un dans une entreprise. Et il y avait une richesse partagée extraordinaire. Ces gens-là ne se seraient jamais parlé ou rencontré hors de ces types d'espace et sans ces médiateurs.
Et oui, il y a cet esprit de mixité dont on ne parle pas souvent et qui existe, où chacun peut se côtoyer. Oui.
C'était finalement aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure dans la séance de questions-réponses, avec finalement aussi l'intergénérationnel qui peut exister.
Qui est fondamental.
Qui peut exister dans ce genre de lieu. Peut-être qui est moins présent dans des lieux plutôt orientés développement économique.
C'est peut-être une stratégie justement à amener. Je pense que c'est très important.
Non, on n'est pas du tout limité, je veux dire, en termes d'âge. Pour donner un exemple, on a eu un coworker qui avait 16 ans, qui était encore en école secondaire, en quatrième secondaire, voilà, qui venait parce qu'il avait déjà effectivement envie. Voilà, ça l'a intéressé. Il a déjà une idée aussi, peut-être effectivement, de création d'entreprise, mais bon, à 16 ans. Puis une coworkeuse de passer 70 ans, enfin 70 ans, voilà, qui est retraitée, mais qui s'intéresse à plein de choses, et voilà, qui était une coworkeuse de la première heure.
Enfin, voilà, puis là, c'est passionnant. Imaginons un jeune de 16 ans, comme tu dis, Lisa, qui veut créer son entreprise. Imaginons un senior qui a géré une entreprise pendant 30 ans. Comptabilité, gestion, administration, recrutement, ressources humaines. Comment il peut être d'un apport? Alors il est retraité, mais comment il peut être un apport extraordinaire pour un jeune dans, moi je trouve que c'est des choses à construire même, faire venir d'anciens chefs d'entreprise dans les espaces de coworking.
Tout à fait. Alors c'est vrai que bon, c'est pas un espace public numérique, donc si on prend l'exemple du senior effectivement qui veut se former aux usages, voilà, aller sur internet faire une réservation de ses vacances, c'est vrai qu'on va plutôt peut-être l'orienter vers un espace public numérique, mais les espaces de coworking clairement sont ouverts à tous, peu importe l'âge.
Au Québec, c'est plutôt vous êtes plutôt sur le concept d'espace public numérique avec ce type de rencontres-là ou pas forcément?
Non, pas forcément. Je pense qu'on est aussi dans les espaces de coworking. Nous, en tout cas, tout ce qui est espace EPN, comme tu as appelé tantôt, on n'a pas cette appellation-là. On est beaucoup dans les cafés communautaires où ce que les gens peuvent se retrouver, échanger ensemble. Mais ça commence, en tout cas. Je pense qu'il y a une révolution. Puis je pense que les gens commencent vraiment à s'intéresser drôlement au coworking, puis aux nouvelles façons de travailler, finalement, pour échanger, pour partager les compétences. Mais voilà.
On a évoqué aussi, je ne sais plus qui l'a cité autour de la table, il y a le concept de Fab Lab aussi qui a été évoqué. Comment ça vit cette notion-là de Fab Lab? On en entend beaucoup parler en ce moment. On l'applique dans la même logique finalement? Enfin, je ne sais pas si quelqu'un...
en fait, derrière la notion de Fab Lab, il y a la notion du faire. Des makers. On fait. On apprend en faisant.
C'est ça. Et on fait ensemble.
On fait ensemble. On apprend. Apprendre pour faire, faire pour apprendre. Et en fait, c'est un retour à une, on veut dire, à des théories de l'éducation et à des théories de l'apprentissage qui sont liées à l'empirisme, au pragmatisme, au constructivisme. Hein, c'est une autre vision. On oppose le savoir théorique, enfin, on oppose le praticien réflexif, celui qui se regarde faire, au savoir théorique. Donc c'est ça qui est en jeu dans les Fab Labs. Et puis dans les Fab Labs, il y a aussi l'idée d'autonomie dans la construction d'objets. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie de la production. On est autonome dans la production de ses propres objets. Donc par exemple, un enfant peut faire ses propres jouets. Un Fab Lab dans une médiathèque, c'est l'idée de monter des ateliers de conception de jouets pour enfants, mais ce sont les enfants qui les imaginent, qui les créent, qui les développent. Et on n'achète pas chez Playmobil.
Et chez vous, dans le concept de coworking, il y a aussi cette notion de faire et de Fab Lab ou pas particulièrement?
Non, c'est vrai qu'on a c'est des concepts qui restent encore assez séparés au sens où les Fab Labs, voilà, sont vraiment des communautés effectivement de makers, mais qui sont pas nécessairement les mêmes communautés qu'on retrouve dans les espaces de coworking. Maintenant, effectivement. On se connaît, hein, donc on fait partie d'une même dynamique et donc on construit des ponts entre à la fois les Fab Labs effectivement, qui sont développés en Wallonie. On a aussi quelques Living Labs qui sont en train de se développer sur des thématiques de la gastronomie ou de l'e-santé.
Ce sont quoi des Living Labs?
Alors les Living Labs, ce sont aussi des laboratoires dans lesquels finalement on construit avec les utilisateurs.
D'accord.
Donc, par exemple, dans le Living Lab qui s'appelle le Smart Gastronomy Lab, on élabore en fait de nouveaux produits, de nouveaux goûts directement à partir des retours des consommateurs. Voilà, on peut l'appeler ça comme ça. Idem dans le domaine de l'e-santé. Donc, on développe des applications dans le domaine de l'e-santé directement avec les retours des utilisateurs.
On a la pointe de l'ultralibéralisme, finalement. C'est directement le consommateur qui vient donner son envie.
Oui, non, mais moi, j'ai l'habitude... En fait, les choses, les barrières tombent.
Oui.
Je vais vous donner un exemple, en France notamment. Qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite, voilà. Aujourd'hui, c'est bien le problème. Alors moi, je dis, c'est mes mots à moi, hein, ils ne valent que ce que je les prononce, quoi, je les prononce. On rentre dans l'ère du communisme libéral. Des mots qui n'avaient rien à voir avant.
De l'utopie réelle.
Et, ou du capitalisme social, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que dans un espace de coworking, dans un live lab, dans un tiers lieu, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut être un individu ultra-libéral qui a envie de gagner de l'argent, qui a envie de construire son entreprise, mais qui va travailler dans un cadre collaboratif. Alors après, le deal, c'est qu'il partage les valeurs, il donne...
C'est aussi. Le point essentiel.
Ah, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un ait envie de devenir un start-upper milliardaire. Ce qui va me déranger, c'est qu'il prend sans donner. Ça, ça va me déranger. Et on est... et en même temps, c'est communiste, au sens de communautaire, au sens de la commune, au 19e siècle. C'est une communauté qui partage des façons de travailler pareilles, des valeurs identiques. Et après, on fait ce qu'on veut. On peut travailler en groupe, on peut travailler tout seul. Et c'est pour ça que c'est plus... Ce qui était antithétique avant, incomparable, incompréhensible, devient maintenant, finalement, harmonieux. Communisme social, communisme libéral ou capitalisme social, c'est comme vous voulez.
Et finalement, on voit que beaucoup de gens peuvent s'associer. Et il y avait une idée aussi que vous évoquiez tout à l'heure et qui était donnée, c'était finalement qu'il y avait une nécessité au travers de cette médiation numérique, des tiers-lieux, du coworking, etc., aussi de diffuser finalement une culture numérique à l'ensemble des populations pour pouvoir rentrer dans ce processus finalement et en être partie prenante. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez en dire de cette notion-là de culture numérique finalement de la population et comment peut-être au travers de la stratégie sur la Wallonie ça a pu être intégré en termes d'action ce type d'objets.
Oui, donc y a différentes actions hein, qui sont détaillées dans la stratégie numérique. C'est vrai qu'on a notamment des approches sectorielles aussi en fonction des secteurs. Donc on a à ce moment-là, j'irais des actions qui sont ciblées, notamment que le domaine de la construction ou de l'agriculture ou de l'industrie pure en tant que telle. Après aussi, via les espaces de coworking, c'est vrai qu'on a un programme d'activité qui est assez important et qui vise justement aussi à donner les clés en fait, aux entrepreneurs pour être encore mieux outillés par rapport à leur activité et en fait, d'utiliser le numérique pour travailler plus efficacement et pour pouvoir encore mieux développer leur activité. Donc en fait, ça, c'est des choses qu'on organise vraiment au jour le jour dans les espaces de coworking. C'est utiliser des logiciels de comptabilité en ligne, utiliser évidemment les réseaux sociaux. Finalement, avoir en main, en tout cas, les clés pour pouvoir aller piocher ce qui va être utile à chacun pour encore mieux travailler, en fait.
Et finalement, c'est aussi une forme de clé de réussite, finalement, que de développer cette culture pour favoriser le plus d'échanges possible. Je ne sais pas. Non, bon, ça vous...
Alors, pas du tout. Bon. Très bien. J'aime quand tu fais des erreurs, Guillaume. J'aimerais revenir juste un moment sur les tiers-lieux, parce que moi, j'ai appris quelque chose. Je ne suis pas spécialiste de la médiation numérique, de tout ce qui tourne autour. Et j'ai appris que les tiers-lieux, finalement, il y en a qui se spécialisaient. Vous expliquiez qu'il y avait des tiers-lieux dédiés à la littérature, à la culture, aux livres, au textile également. Donc, vous faites partie d'un tiers-lieu au fil conducteur, donc fabrique de couture collaborative et connectée. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus.
C'est un tiers-lieu qui, pour l'instant, n'a pas de lieu. Mais justement, on en cherche un. On va sûrement en trouver un. Par contre, c'est une communauté. Donc, l'idée, mais je ne veux pas faire la promotion. Moi, je suis simplement président.
Non, mais c'est pour qu'on comprenne, parce que oui, c'est quand même étonnant. Vous parliez de Facebook, la définition de la dame qui vous a expliqué. C'est même presque du Pinterest où des gens se regroupent auprès de passions communes.
Mais par contre, l'émergence des tiers-lieux thématiques est passionnant. Donc, vous avez des tiers-lieux entièrement consacrés à la menuiserie. Là, c'est les fils au fil conducteur. C'est un tiers-lieu autour de l'habit, de comment co-construire ensemble des habits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, vous prenez, vous allez repenser les uniformes des policiers municipaux, par exemple, avec les policiers. Attention, hein. Vous allez repenser la blouse du malade. Dans un hôpital. Vous savez, cette blouse qui est ouverte par derrière, qui est atroce, qui est presque humiliante.
Oui, c'est ça.
Et du coup, on peut travailler avec les infirmières, avec un CHU, sur qu'est-ce que ça serait une blouse un peu plus drôle, un peu moins stressante et un peu moins humiliante. Donc il y a ça. Il y a l'idée aussi de co-fabriquer des vêtements ensemble qui soient sous licence Creative Commons, c'est-à-dire dont les patrons sont partageables. Exactement comme on partage Wikipédia, ou qu'on partage des fichiers 3D pour les imprimantes 3D, on partage des patrons. Ça veut dire que si moi, j'imagine, on fait un atelier avec des jeunes adolescentes pour imaginer leur maillot de bain, pour l'été, alors elles vont aller chercher dans les histoires des maillots de bain. Oui, je voudrais le maillot de bain de, je sais pas moi, Marilyn Monroe, j'en sais rien. Elles vont construire des maillots de bain. Okay ? Ensuite, il y aura un défilé au tiers-lieu. Évidemment.
Et oui, pour présenter.
Oui, forcément.
Évidemment.
Forcément. Et tout ça sera convivial, bienveillant. Et elles seront très fières aussi d'arriver au collège. Alors je dis elles, mais ça pourrait être aussi.
En maillot
garçon.
De bain.
Non, mais ça va gêner. Ou la plage, en disant.
Pour aller à la piscine. Sublime.
C'est
les
moi
de
qui
piscine.
L'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Autonomie, appropriation, oui, valorisation. Donc il y a ça. Puis la deuxième chose, c'est qu'au Québec. Puisque au fil conducteur a un site, mais ça peut être aussi un autre tiers-lieu, hein, c'est pas forcément celui-là, au Québec, eh bien, on peut aller sur le blog de fil conducteur, suite à l'atelier, et puis télécharger les patrons, c'est libre de droit. C'est un bien commun. On construit des biens communs autour de l'habit. C'est une communauté. Donc c'est un exemple, mais on peut avoir un tiers-lieu autour de la cuisine, un tiers-lieu autour du livre, et on voit émerger comme ça, des tiers-lieux thématiques.
Et si une grande marque reprend votre maillot de bain, par exemple, qui a été créé,
c'est sous licence Creative Commons.
Ouais.
Donc, s'il le reprend, il est obligé de citer au fil conducteur.
D'accord.
C'est tout.
Ok.
Mais il est
mais vous récupérez. Alors, ouais,
après,
c'est
attention.
De droit, donc,
après,
ça
attention.
Limites,
tout
même,
dépend
ça.
De la licence Creative Commons que j'ai choisie.
Ah.
Si j'ai choisi une licence qui autorise l'usage commercial, il y aura pas de problème. Si j'ai choisi une licence qui interdit l'usage commercial, au fil conducteur mettra immédiatement un procès. À cette entreprise qui exploite la créativité du collaboratif.
Très intéressant. Merci beaucoup. On va faire une pause musicale. On va revenir dans une seconde partie d'émission avec nos amis d'Outre-mer, nos pilotes d'Outre-mer. L'atelier se termine. Merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant de
vous
avoir tous les trois
merci.
Autour
merci.
De cette table. On fait une pause, Corentin. Je te laisse lancer une chanson. On revient de suite après.
We'll be right back.
48FM. 48FM.
Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie d'émission avec, avec nous autour de cette table les représentants du pôle Outre-mer de la médiation numérique. Alors nous avons Laurent Laluc de Recyclage Éco-Citoyen qui est pilote du pôle Outre-mer. Bonsoir.
Bonsoir.
Également, alors on était plutôt dans les pays du Nord avant, on va avoir un peu de soleil avec Malik Ouassaïm de Guyaclic de Guyane. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Georges Wapae du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Cette deuxième partie d'émission, donc on va parler de pôles interrégionaux de la médiation numérique. Alors rapidement pour expliquer à nos auditeurs, la constitution du moins du réseau national de la médiation numérique, la secrétaire d'État s'est appuyée sur des pôles de ressources interrégionaux de la médiation numérique qui regroupent les structures publiques et associatives locales désireuses de contribuer à consolider et à généraliser les actions de la médiation numérique dans les territoires. Donc il y a 7 structures pilotes, nous en avons une autour de cette table. Je vous remercie d'être là. Déjà, vous avez travaillé avant, vous êtes venu avant, Amande, pour travailler en amont des assises. Vous avez organisé les premières rencontres ultra numériques. Amande, donc peut-être nous dire un mot un peu sur ces rencontres.
Oui, je vous remercie. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'Agence du numérique a essayé de structurer un réseau d'interlocuteurs au travers de pôles interrégionaux qui ont eu pour mission, pendant les quelques années qui viennent de s'écouler, de faire émerger une représentation des acteurs de la médiation numérique. Alors d'un point de vue régional, même si le découpage de l'interrégion ne correspond pas véritablement au découpage administratif, pour arriver jusqu'à ce qui vient de se passer aujourd'hui et ce dont on sort, c'est-à-dire la constitution, en tout cas la décision de la part des acteurs de la médiation numérique de se constituer en réseau, qui était un des travaux qui ont été menés par les pilotes de pôle. En ce qui nous concerne pour l'Outre-mer, c'est un sujet sur lequel il a fallu travailler avec la distance. Parce que les territoires de l'Outre-mer, qui sont des territoires de la République, sont des territoires qui sont éloignés parfois de notre vision ou de la vision métropolitaine. Donc ça a été déjà un premier travail de rencontrer les différents acteurs, de voir avec eux comment la médiation numérique se positionnait sur leur territoire, avec des territoires qui sont équipés de façon très très différente. Je prends l'exemple de la Guyane par exemple, où la médiation numérique n'existe réellement ou n'a pris corps réellement qu'il y a 2 ans avec la création des premiers cybercarbés portés par l'association Guyaclic. Et puis d'autres territoires qui ont une histoire un peu plus longue, comme les Antilles par exemple ou la Réunion. Et puis enfin des territoires qui ont un statut plus particulier que les DROM que je viens d'évoquer, comme la Nouvelle-Calédonie, et qui ont une structuration territoriale en plus de l'existence des acteurs de la médiation numérique. Donc il fallait composer avec toute cette diversité. Et l'objectif des rencontres ultra-numériques, c'était justement de se dire tous ces acteurs existent chacun dans leur territoire, ont rarement l'occasion de venir sur les assises nationales pourtant de la médiation numérique. Comme on vient de le rappeler, c'est la première édition à laquelle l'Outre-mer est représenté sur des assises nationales. Et donc c'était l'occasion avant ces assises également de se réunir entre nous pour savoir vis-à-vis de la structuration du prochain réseau, comment on était nous aussi en ordre de marche pour au sein de nos territoires structurer, faire rencontrer les politiques publiques et faire prendre conscience aux politiques publiques qu'au-delà du virage numérique que tout le monde a compris, c'est plus un enjeu dont on discute aujourd'hui, mais comment on fait travailler ensemble des acteurs existants, que ce soit les décisionnaires politiques et puis les acteurs de terrain, pour se projeter sur l'avenir et sur en quoi le réseau de la médiation numérique est un facteur de développement pour chacun des territoires.
Alors on va peut-être justement voir un petit peu ce qui se passe sur les différents territoires donc qui sont présents ici. Alors partons peut-être en Guyane pour commencer. Qu'est-ce que ça donne en concret la médiation numérique sur le territoire de la Guyane?
Alors rebonsoir, hein. Malik Ouassaïm, directeur de l'association Guyaclic, donc le seul acteur qui œuvre sur la médiation numérique en Guyane. Donc pour vous situer rapidement, hein. La Guyane, c'est un département français donc, situé en Amérique du Sud. Donc, 8000 km nous séparent aujourd'hui. Mais on a donc, effectivement donc, les mêmes besoins. On prend tous le même virage, à savoir la dématérialisation et la mise en œuvre du numérique à tous les niveaux, donc, que ce soit économique et social. Donc aujourd'hui, nous, on mène 2 activités en Guyane pour contribuer à cette médiation, à savoir donc une première activité qui est liée au réemploi informatique, car la fracture numérique aujourd'hui touche un grand nombre donc, de publics chez nous. Et puis deuxièmement, effectivement, la création d'un réseau d'espaces publics numériques afin de permettre donc l'accès à l'ordinateur, mais aussi à Internet. Donc aujourd'hui, donc notre enjeu, est de permettre de favoriser cet accès aux droits et puis surtout de se déployer sur l'ensemble de notre territoire. Maintenant, c'est un projet qu'on mène, nous, qui a une dimension régionale et qui nécessite une structuration et même un accompagnement au niveau national de manière à pérenniser notre activité. Et c'est l'enjeu des assises numériques, donc c'est de nous faire fédérer, donc entre acteurs ultramarins, et puis aussi d'assurer une cohérence en termes de stratégie et de moyens qui sont décidés au niveau national, et surtout de les adapter à notre territoire, tout simplement.
Mais sachant que c'est un très grand territoire finalement, le territoire de la Guyane.
Alors effectivement, c'est un très grand territoire. Alors, c'est un peu paradoxal, effectivement, parce que la majorité de la population est située sur le littoral. Pourquoi ? Parce que 80% de notre territoire est réservé, c'est un centre national, en tout cas, réservé à l'État, c'est le parc national forestier. Donc, on a un grand territoire vaste, mais une population très concentrée, avec donc différentes spécificités, parce que nous sommes un pays avec deux frontières, et deux grands pays qui sont le Suriname et le Brésil. Donc c'est toute cette spécificité en termes de culture, en termes de barrières au niveau de la langue, donc, qui font tout l'enjeu en tout cas de notre existence, de manière à pouvoir, par le biais du numérique, insérer au niveau socio-économique toute cette pluralité donc, de public qui réside chez nous.
Alors, concrètement, ça passe par des lieux, ça passe par des ateliers, ça passe.
Alors effectivement, notre réseau d'EPN appelé Cybercarbé est un espace public numérique. C'est rien donc de différent par rapport aux espaces numériques donc résidents en France. Donc on propose différents ateliers donc sur des savoirs de base, donc sur l'alphabétisation numérique. Et donc on fait de l'initiation, mais même du perfectionnement, parce que ce n'est pas que 100% de la population qui est illettrée, en tout cas au niveau du numérique. Et c'est ce large panel d'actions que nous mettons en place dans nos cybercarbets, qui sont adaptés au profil donc des publics que nous avons, à savoir des demandeurs d'emploi, des personnes en situation de handicap, des jeunes décrocheurs, mais aussi des associations qui manquent de moyens en termes de numérique. Et donc on a un large catalogue d'activités qui sont proposées ici, mais adaptées chez nous. Voilà.
C'est assez intéressant, parce que finalement, on se rapproche du concept qu'on connaît bien en Lozère, finalement, avec nos maisons de service au public.
Exactement.
Qui sont finalement assez proches, finalement, en tous les cas, dans la description que vous en faites, des lieux chez vous. Alors peut-être on peut partir en Nouvelle-Calédonie pour nous dire un petit peu, chez vous, quel est le paysage, qu'est-ce qui se passe, comment la médiation numérique se concrétise sur votre territoire ?
Très bien. Bon, très rapidement, peut-être aussi situer la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on parle de territoire ultramarin, mais on voit un peu une situation, géographique et temporelle. Donc la Nouvelle-Calédonie, 17 000 km de la France métropolitaine, 22 heures d'avion à peu près. Le continent le plus proche, c'est l'Australie, à 2 heures d'avion. Alors de manière plus globale, la médiation numérique en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie fait partie intégrante d'un plan plus global qui s'appelle le plan stratégique pour l'économie numérique. Donc la Nouvelle-Calédonie s'est engagée effectivement dans cette stratégie, puisque conscient des enjeux du numérique. Et donc ce plan stratégique s'articule autour d'un certain nombre d'axes. Quatre axes très rapidement. L'aménagement numérique du territoire, il faut des tuyaux bien évidemment. Le développement des usages, où s'intègrent bien effectivement ces actions de médiation numérique qu'on inclut nous dans le cadre des actions d'inclusion numérique. Il y a dans ce plan stratégique l'axe de développement économique, et tout cela repose sur un socle juridique et réglementaire. Donc de manière très globale, la Nouvelle-Calédonie, le développement numérique de la Nouvelle-Calédonie s'appuie sur une stratégie véritable partagée avec tout l'ensemble des acteurs.
C'est un vrai positionnement politique du territoire de la Nouvelle-Calédonie de mettre le paquet sur cette question du numérique. Quels objectifs finalement c'est favoriser le développement économique. Comment ça a été introduit comme politique publique pour ce territoire?
Comme vous le dites très justement, c'est la politique publique numérique de la Nouvelle-Calédonie, puisque statut juridique de la Nouvelle-Calédonie est un peu particulier. Hein. C'est une collectivité d'outre-mer avec un statut dit sui generis de son propre genre. De ce fait, elle a des instances institutionnelles un peu différentes qui ont une certaine forme d'autonomie. Donc ce plan stratégique a fait l'objet d'une validation d'un vote du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui est l'organe législatif, ce qui en fait une véritable politique publique. Donc ce plan stratégique vise 5 objectifs de manière très concrète. Le premier a trait à la confiance numérique et à la gouvernance. Hein. Le deuxième a trait à l'accessibilité numérique à tous les citoyens, quels qu'ils soient, aussi bien dans le domaine public que privé. Et là, je parle des sociétés. Le quatrième trait, c'est la modernisation de l'administration. Donc là, on est typiquement dans le cadre du développement de l'administration électronique. Le quatrième objectif a trait au développement économique, créer de la valeur autour du numérique. Et enfin, le cinquième objectif de ce PSN, de son petit nom, c'est de faire de la Nouvelle-Calédonie une cyber-référence dans le Pacifique insulaire, puisque la Nouvelle-Calédonie a des proches voisins, qui sont par exemple le Vanuatu et d'autres territoires où le développement numérique n'est pas encore aussi bien avancé.
Ça doit être extrêmement complexe sur des territoires insulaires d'avoir ces types de politiques d'un point de vue technique, d'un point de vue de mise en réseau aussi des différents acteurs locaux. Comment vous travaillez avec cette réalité de territoire particulière ?
Eh bien, c'est tout l'enjeu de ma présence hein, dans le cadre de ces assises, puisque bien évidemment... Si l'objectif du PSN, c'est de favoriser un accès équitable aux services numériques au plus grand nombre, il doit aussi faciliter le partage du savoir, participer au désenclavement des zones les plus reculées, mais surtout aussi rapprocher la Nouvelle-Calédonie du reste du monde. Donc la Nouvelle-Calédonie, nous avons un récif autour, mais le numérique nous dit maintenant, nous ne sommes plus dans un contexte d'insularité, puisque on s'ouvre au monde et le monde s'ouvre à nous. Donc c'est tout l'enjeu de pouvoir participer, de se mettre en réseau avec tous les acteurs dans le cadre du numérique, à l'échelle du territoire métropolitain, mais bien évidemment avec les autres territoires ultramarins.
Alors peut-être donc ces rencontres ultramarines, elles ont commencé il y a quelques jours. Là, il y a la suite qui se prend avec cette notion de réseau au niveau national. Finalement, qu'est-ce que vous allez conduire vous entre territoires ultramarins et qu'est-ce que vous apportez au paquet national, au paquet global? Dans ces échanges, dites-nous un petit peu.
Ça m'amène plusieurs idées en tête. La première, c'est que les rencontres en fait avaient lieu lundi et mardi, et que effectivement, d'ailleurs, on tient à remercier, on l'a fait publiquement hier à l'issue de nos rencontres, le conseil départemental de Lozère qui a accueilli ces rencontres de l'outre-mer numérique, et je souligne à quel point ça peut paraître. Enfin, c'est important, en tout cas, c'est fort de symbolisme de voir que le département le plus petit de France est le moins peuplé, donc pas forcément le plus proche des réalités métropolitaines, en parlant de métropole, de grande métropole, accueille les territoires éloignés de la métropole. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, comme vous l'avez souligné, recyclage éco-citoyen, c'est un éco-organisme qui a des contacts ou des relais en Outre-mer avait été désigné par l'Agence du numérique. Et puis, il a été décidé entre nous, puisqu'on a fait consensus entre les acteurs présents, que ce soit l'acteur de La Réunion qui, à partir de l'année prochaine, porte ce pilotage de pôle, Solidarnum, qui malheureusement n'est pas présent autour de la table, parce qu'il s'avère que l'actualité a fait que les rencontres du numérique de l'océan Indien s'organisent à partir de demain, et que donc il ne pouvait pas ne pas être présent dans l'océan Indien à partir de demain. Ça, c'est pour un des points d'issue de notre rencontre. Notre rencontre, en fait, c'est conclu par la volonté de travailler stratégiquement ensemble, c'est-à-dire définir une stratégie commune des outre-mer numériques, enfin de l'outre-mer numérique ou du numérique en outre-mer, quel que soit le sens dans lequel on va y prendre la proposition. Donc ce qui est l'objectif de nos prochains mois de travail, on nous a fait part de l'organisation par la Nouvelle-Calédonie dans quelques mois des assises du numérique de Nouvelle-Calédonie, et donc l'objectif pour l'instant nous concernant, c'est de travailler d'ici les assises de la Nouvelle-Calédonie pour qu'il y ait une suite, ou en tout cas une version 2.0 des rencontres ultra-numériques qui se tiennent dès le printemps prochain en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons pour cela fait une déclaration commune qui a été lue hier publiquement ici dans le cadre de la préparation des assises avec les organisateurs, dans lequel effectivement les acteurs présents s'engageaient à travailler communément et de porter la parole chacun dans leur zone respective et auprès de leurs autorités territoriales pour faire en sorte que ce réseau du ultra-numérique, de la médiation numérique d'outre-mer prenne tout son sens et soit visible dans les actions dans chacun des territoires, entre les territoires et même d'ici en métropole.
Bien. Et donc au niveau national, les choses se décantent. Là, vous avez fait un conclave pendant quelques heures.
Voilà. Alors effectivement, un conclave qui a duré un peu plus longtemps que prévu, ce qui fait que sans vouloir avoir une politique de la chaise vide, le réseau ultramarin pour vous rejoindre n'a pas pu participer jusqu'à la fin des débats, mais nous avions de toute façon déjà pu nous concerter avec les acteurs, qui a fini par un vote consensuel sur effectivement la fondation de ce réseau, sachant que le réseau de la médiation numérique en fait se propose de réunir les acteurs par typologie d'acteurs, acteurs publics, acteurs de la médiation numérique, et voilà comme ça en fait sept collèges d'acteurs, et que la stratégie est de constituer des commissions thématiques, et en l'occurrence c'est ce que nous avons porté en tout cas, qui est des commissions représentatives des régions pour donner une visibilité à l'action dans les régions, dont la région ultramarine qui va se fédérer, donc qui s'est fédérée autour du réseau ultranumérique.
Très bien, ben voilà, je crois que ça effectivement, vous nous avez mis un peu en perspective ces travaux préalables, ces travaux d'aujourd'hui qui constituent ce réseau. Et c'est vrai que lors de l'émission ce midi avec Antoine Darod, notamment, cet objectif de constitution du réseau était clairement affiché. Et effectivement, je crois que voilà, c'est un des points d'avancée majeurs de ces assises de la médiation numérique, en tous les cas dans ce réseau qui est constitué et qui est existant. Merci en tous les cas d'être venu participer à cette émission.
Merci à vous.
Merci. On vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour une nouvelle émission qui, elle, sera plutôt consacrée à la journée, enfin qui annoncera un petit peu la journée de vendredi, avec notamment de nombreuses activités ouvertes largement au public ici à l'espace événement Georges Fraîche, notamment au niveau du rez-de-chaussée où il y a plein de choses à découvrir et à vivre toute la journée de vendredi pour palper ce que c'est que cette médiation numérique.
Et nous vous invitons donc à venir rencontrer les quelques acteurs ultramarins qui sont encore présents effectivement vendredi, puisque nous avons une table pour le réseau ultranumérique qui est prévue dans la prairie.
Voilà, pour la prairie beaucoup. Des innovations, c'est ça. Merci beaucoup, on viendra avec plaisir, on invite tous les auditeurs également à venir. Une petite chanson pour faire la bascule, et après on retrouve la rediffusion de l'Instant Sport de lundi dernier, lundi midi, et bien sûr votre programme habituel, et le soir c'est Erisong qui vous proposera un programme musical à 21h. Merci bien, merci à vous, et rendez-vous donc sinon demain, ici à l'espace événement Georges Fraîche, de 12h30 à 1h30 pour une nouvelle émission. Ciao.